Alors aujourd'hui, on attaque les mégillotes, les cinq petits rouleaux. Mégillotes en hébreu, c'est le pluriel de Megillah. Megillah, ça veut dire rouleau. Donc les mégillotes, ce sont les rouleaux. Et il y en a cinq. Ce sont cinq petits livres qui ont été rassemblés. Alors ça, ce rassemblement des cinq petits livres, évidemment, c'est tardif. Ils n'ont pas été conçus comme ça au moment où ils ont été rédigés. Alors il s'agit du livre de Ruth, du livre du Cantique des Cantiques, le livre du Kohelet, connu aussi sous le nom d'Ecclésiaste, le livre des Lamentations et le livre d'Esther. Donc ces cinq livres-là, qui sont clairement de rédactions différentes hein, et qui ont circulé indépendamment les uns des autres, ont fini par être rassemblés. C'est un cas assez différent. C'est un cas assez différent des 12 prophètes. Quand on avait brossé un peu ces 12 petits prophètes, j'avais insisté sur le fait qu'en fait, assez rapidement, ils ont été rassemblés pour ne former qu'un seul livre, le livre des 12, en expliquant que dans les phases rédactionnelles, dans les dernières phases rédactionnelles, on voit que la façon dont on les met bout à bout et dont on enchaîne ces livres. Alors que là, il ne s'agit pas du tout de considérer ces cinq livres comme étant un seul gros livre, pas du tout, ce sont vraiment cinq livres indépendants. Ils ont été rassemblés, alors pour quelle raison ? Parce qu'en fait, ils sont lus en entier à une occasion particulière de l'année. Donc, dans le cycle de liturgique, dans le cycle de lecture du judaïsme rabbinique, ces livres-là sont lus à des occasions particulières. Par exemple, le livre de Ruth est lu le jour de la Pentecôte. Le livre des Cantiques, enfin du Cantique des Cantiques, pardon, est lu à Pâques. Le livre du Kohelet est lu à la fête de Soukhot, c'est la fête des huttes, donc c'est à l'automne. Le livre des Lamentations de Jérémie est lu le jour où on commémore la destruction du Temple. Et puis enfin, le livre d'Esther est lu à la fête de Pourim, puisque précisément la fête de Pourim est décrite dans le livre d'Esther. On y viendra. Alors l'ordre dans lequel on les trouve a varié. Si on prend l'ordre des fêtes dans l'année, il faudrait commencer par le Cantique des Cantiques, puis Ruth, et puis ensuite l'ordre ne bouge pas. Mais concrètement, à l'heure actuelle, on trouve d'abord le livre de Ruth, et puis ensuite le livre du Cantique des Cantiques. Alors il se peut que cet ordre soit dû à une volonté d'organisation concentrique, puisque on terminerait par un livre centré sur un personnage féminin. Le livre du Ruth en premier, et en cinquième position, le livre d'Esther. Et puis ensuite, en deuxième et quatrième position, on aurait un livre poétique, Cantique des Cantiques d'un côté, Lamentation de l'autre. Alors, poétique, mais effectivement avec des thèmes assez différents. Cantique des Cantiques, c'est l'amour, et puis bon, les Lamentations de Jérémie, c'est plutôt des lamentations, même s'il n'y a pas que ça, hein, on le verra. Et puis du coup, au centre, le livre de Kohelet, qui est un livre de sagesse, littérature sapientielle. Donc, on voit des genres différents. Premier et cinquième, narratif. Deuxième et quatrième, poétique. Et celui du centre, littérature sapientielle. Donc, vous voyez ce côté un peu avec des A, B, C, B', A'. Une structure concentrée comme ça. Alors, le chiffre 5 également n'est pas anodin. C'est un chiffre assez récurrent au niveau des structures de livres. Le Pentateuque compte 5 livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Le livre des Psaumes également, on l'a vu, est composé de 5 livres, en fait, 5 livrets. Donc on voit cette structure quinquipartite est récurrente dans la littérature du judaïsme. On peut citer également le livre d'Enoch, alors qui n'est pas pour le coup dans le canon hébraïque, qui n'est pas dans la Bible hébraïque, mais qui est par exemple dans la Bible éthiopienne. Le livre d'Enoch est lui aussi composé de 5 livrets. Donc voilà pour les mégillotes. Alors aujourd'hui, on est censé tous les faire en une semaine dans le calendrier de lecture. Ils tombent tous la même semaine, parce que c'est des petits livres. Mais peut-être, je ne pense pas les faire les 5 aujourd'hui. On a un peu de marge, puisqu'on terminera l'année avec les chroniques. Et les chroniques, en grande partie une reprise de Samuel Roy, donc on n'a pas besoin de 2 séances pour les chroniques. Donc du coup, on va peut-être passer un peu plus de temps sur ces petits rouleaux. D'autant plus qu'ils sont très riches, ils sont vraiment intéressants. Alors on commence avec le livre de Ruth. Le livre de Ruth, donc, c'est un livre narratif. Comme je disais tout à l'heure, ce sera le même cas pour le livre d'Esther. Et c'est un livre qui est centré sur un personnage féminin. Le héros est une héroïne. Alors non seulement c'est une héroïne, non seulement c'est une femme, mais en plus elle n'est pas israélite. Elle est moabite. Et c'est précisément cette identité qui va être le thème central du livre de Ruth. Qu'est-ce qu'on fait des non-judéens? Est-ce que ce sont des méchants, il faut les tuer? Est-ce qu'il faut les accepter? Est-ce qu'ils peuvent devenir des judéens, mais sans l'être vraiment, mais en adoptant la religion judéenne, donc le judaïsme? Voilà. Ça, c'est la question centrale du livre de Ruth. Alors, je vous raconte l'histoire quand même, au cas où vous ne l'auriez pas déjà lu. Ruth, c'est l'épouse, donc elle est moabite, mais elle a épousé un judéen. Sauf que son mari est mort. Mais il n'y a pas que son mari qui est mort, le frère de son mari est mort aussi. Autrement dit, les deux fils de sa belle-mère sont morts. Et le mari de sa belle-mère est mort aussi. Donc tous les hommes meurent. Je ne sais pas, il y a une épidémie. Où sont les hommes? Donc voilà sa belle-mère qui s'appelle Noémie, avec ses deux belles-filles. Ce sont des femmes. Et une femme peut difficilement... dans la société, disons, une femme peut difficilement être autonome dans une population où les revenus sont des revenus principalement agraires, donc il y a beaucoup de travail physique. Donc les femmes évidemment travaillent, évidemment, mais c'est quand même on a besoin de main d'œuvre, et c'est pour ça qu'en général on a des familles nombreuses et il y a des fils, ils ont des gros bras. Et ils sont capables de s'occuper des champs, etc., etc. Donc on est dans une société où c'est très difficile pour une femme d'être seule. Et précisément, le droit israélite prévoit que si une femme est veuve, elle peut épouser le frère de son mari, mais là, en l'occurrence, il est mort aussi, ou, disons, le plus proche parent. Ce qui lui permet d'éviter de se retrouver seule, d'être veuve. Bon, là, elle n'a pas d'enfant, mais en plus, une femme est veuve, qu'elle a des enfants, etc. C'est, d'un point de vue économique, d'un point de vue social à l'époque, c'est très difficile. Donc, il y a aussi une réflexion sur la précarité du statut de la femme dans la société à l'époque. Donc, forcément, la belle-mère Noémie, elle conseille à ses deux belles-filles qui sont... Donc, elle est veuve et ses deux belles-filles sont veuves. Elle leur conseille d'aller se trouver un autre mari, de rentrer chez elles, puisqu'en plus, elles ne sont même pas israélites. Donc, Noémie, elle va rentrer en Judée. Elle dit, mais vous êtes étrangère, donc déjà pour moi, c'est difficile, mais si en plus vous êtes étrangère, ça ne va pas être facile pour vous. Donc, elle leur conseille plutôt de rentrer en Moab et d'essayer de refaire leur vie là-bas. L'une des deux repart, Orpa. Enfin, c'est pas Oprah, hein, c'est pas Oprah Winfrey, c'est Orpa. Mais Ruth, elle, décide de rester avec sa belle-mère. Et là, on va avoir une forme de loyauté en disant « Non, je ne te quitte pas ». Cette loyauté, c'est aussi un thème qu'on va retrouver dans le livre de Ruth à plusieurs niveaux. La loyauté de Ruth vis-à-vis de sa belle-mère. On va voir aussi la loyauté d'Yahvé, évidemment. Et puis, on aura un peu plus tard la loyauté de Boaz, un personnage qu'on va voir à partir du chapitre 2. Donc ça, c'est le premier chapitre. Le premier chapitre raconte, plante le décor, si vous voulez, et nous raconte, d'une part, la mort des époux, et puis le fait que Ruth décide de rester avec Noémie, et donc d'aller en Judée avec Noémie. Au chapitre 2, c'est là qu'on va avoir le personnage de Boaz qui va être introduit. Ruth va aller glaner dans le champ de Boaz. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que les moissonneurs ramassent, ils vont moissonner les épis de blé, ce qui reste derrière, elle va pouvoir glaner. Ça, c'est chapitre 2. Donc, Boaz entre en scène. Chapitre 3, Ruth va aller passer la nuit avec Boaz. Elle a des vues sur lui. Et puis, chapitre 4, ça va marcher. Boaz va l'épouser. Donc, voilà, 4 chapitres, c'est vite fait. Hein. Alors ce Boaz se trouve être un proche parent. C'est ce qu'on nous dit, chapitre 2, verset 1er. Noémie avait un parent du côté de son mari. Il s'appelle Boaz. Et donc justement, c'est ce qui permet à Ruth d'aller glaner dans le champ de Boaz. Évidemment, ça se passe assez bien. Elle arrive, quand elle va glaner, verset 3, elle s'en va glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Il se trouva que la parcelle de terre appartenait à Boaz. Or, Boaz arriva de Bethléem, il dit au moissonneur que le Seigneur soit avec vous. Ils lui répondirent que le Seigneur te bénisse, donc les salutations, etc. Et puis, verset 8, Boaz dit à Ruth, écoute bien ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas non plus d'ici, attache-toi à mes servants. Donc il lui dit, il n'y a pas de problème, tu peux glaner ici. Donc elle est toute contente, verset 10, elle se prosterna face contre terre, elle lui dit, comment ai-je pu trouver grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi alors que je suis une étrangère. Vous voyez la réflexion par rapport au statut de Ruth qui est une Moabite. Verset 11, Boaz lui répondit, on m'a raconté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère, en particulier le fait que Ruth s'est attachée à Noémie. Et donc finalement, en dépit de son statut d'étrangère, elle est Moabite, son comportement lui vaut la bonté de Boaz. Donc verset 12, que le Seigneur te rende ce que tu as fait, que ta récompense soit complète de la part de Yahvé, le Dieu d'Israël, sous les ailes de qui tu es venu chercher un abri. Donc il dit, voilà, tu es venu chercher un abri sous les ailes de Yahvé, le Dieu d'Israël. Et donc il dit, Yahvé va te le rendre. Donc c'est intéressant de voir la bénédiction de Yahvé vis-à-vis d'une Moabite. Vous voyez qu'on est, la réflexion, le fil rouge, c'est toujours de dire finalement, est-ce qu'une Moabite, quelqu'un qui n'est pas, qui ne fait pas partie du peuple d'Israël, peut trouver grâce aux yeux d'Israël? Il faut savoir que dans le contexte des populations israélites au premier millénaire avant notre ère, enfin la population israélite et les peuples avoisinants, on est dans un contexte de monolâtrie. C'est-à-dire qu'on vénère qu'un seul dieu, chaque nation a son dieu. Le dieu d'Israël, c'est Yahvé. Le dieu de Moab, c'est Kemosh. Et le dieu d'Édom, par exemple, c'est Kos. Donc voilà, elle est Moabite. Donc voilà, un dieu, c'est son dieu. C'est le dieu Kamosh ou Kemosh, je ne sais pas comment vous le prononcez. C'est pas Yahvé, son dieu. Et pourtant, elle vient chercher refuge sous les ailes de Yahvé. Du coup, quand Ruth revient à la maison, elle lui dit tout ce que... Et Noémie est très contente, Noémie, c'est formidable, ça tombe bien. Elle lui dit, verset 20, Noémie, verset 20b, Noémie lui dit encore, cet homme est notre proche parent, c'est un de nos rédempteurs. Alors le terme que vous avez ici, c'est le terme Goël, qui est traduit, donc c'est un participe actif du verbe Gaal, qui veut dire racheter, rédimer, donc c'est le rédempteur, le racheteur. Autrement dit, c'est en lien avec la loi du Lévira, quelqu'un qui peut racheter quelqu'un d'une... comme je vous ai expliqué, la veuve d'un proche parent, etc. Alors du coup, maintenant, il s'agit d'aller un peu plus loin, il faut conclure l'affaire. Puisque Boaz est susceptible de racheter Ruth, mais qu'en même temps, Ruth est une Moabite, donc elle a peu de chance que quelqu'un s'intéresse à elle, mais que malgré tout, Boaz a l'air de... passer outre le fait qu'elle est Moabite, et Noémie lui dit, mais c'est l'occasion, il faut absolument le convaincre. Alors, comment arriver à convaincre un homme? C'est facile, faut passer la nuit avec lui, quoi. C'est un bon moyen. Bref. Je ne sais plus, je sais pas si je devrais vous dire ça, mais on m'a dit un dicton, on a dit... À mon avis, c'est absolument pas vrai, hein, mais c'est pas grave, je vous le dis quand même, vous allez voir, c'est drôle. Pour qu'une femme passe la nuit avec un homme, il faut qu'elle l'aime. Pour qu'un homme aime une femme, il faut qu'il passe la nuit avec elle. Un truc comme ça. Bref, voilà. Ruth se dit... du coup, Noémie lui dit, il faut que tu passes la nuit avec lui. Donc elle lui dit... Non, c'est chapitre 3, donc on est troisième partie de cette histoire, verset 3. « Lave-toi, parfume-toi. » Mets ton manteau, etc., etc. Donc il faut qu'elle se parfume, il faut qu'elle se fasse belle, etc. Verset 4, quand il ira se coucher, tu sauras à quel endroit il se couche. Ensuite, tu iras découvrir ses pieds et tu te coucheras. Donc elle doit, aller se glisser sous sa couette. Verset 7, Boaz mangea et bu, son cœur était content, il alla se coucher. Autrement dit, il a un petit peu bu, il est un petit peu joyeux, tout ça, etc. Il va se coucher. Verset 8, en pleine nuit, l'homme frissonna et se retourna, une femme était couchée à ses pieds. Il lui dit « Qui es-tu ? » Elle répondit « Je suis Ruth, ta servante, étends le point de ton vêtement sur moi, puisque tu es rédempteur. » Il s'exclama « Sois béni de Yahvé, ma fille. Cette dernière marque de fidélité vaut mieux encore que la première, car tu n'as pas couru après les jeunes gens pauvres ou riches, etc. etc. » Donc il lui dit « C'est avec plaisir. » Alors, sauf que, verset 12, il est vrai que je suis rédempteur, il y a un autre rédempteur qui est un parent plus proche que moi. Donc il dit « D'accord, mais il y en a un qui est plus un parent plus proche que moi, donc il est prioritaire sur la liste. » Donc, si lui veut de toi, il est prioritaire, donc il faudra essayer de le convaincre que de se désintéresser de toi. Bon. Et puis, du coup, elle reste avec lui. Verset 14, elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin et se leva avant l'heure où l'on peut se reconnaître l'un l'autre. Autrement dit, au petit matin. Et oui, en effet, Boaz se disait qu'on ne sache pas que cette femme est entrée sur l'air. Il a passé la nuit avec lui, mais bon, en même temps, il ne voudrait pas que ça se sache. Alors, évidemment, ce chapitre est un petit peu ambigu, ils passent la nuit ensemble, on nous dit qu'elle se met à ses pieds, qu'elle se glisse sous sa couette, etc. etc. Bon, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? On ne le saura jamais. Maintenant, il faut savoir que les pieds, dans un certain nombre de textes bibliques, c'est un euphémisme pour le sexe, en fait. Quand vous avez dans Isaïe les séraphins qui ont des ailes pour se cacher les pieds, ils n'ont pas besoin de se cacher les pieds. On se cache le sexe. Dans le livre de l'Exode aussi, etc., etc., à un moment donné, on touche les pieds de quelqu'un, on touche le sexe de la personne, en fait. Enfin, voilà. Donc, dans un certain nombre de textes, les pieds, c'est... Alors, nous, qu'elle se couche à ses pieds, je ne sais pas exactement jusqu'où on remonte. Puis, en plus, le mot « regel » en hébreu, qui est traduit par « pied » ici, c'est la jambe, en réalité. Donc, c'est pas juste les pieds et les pieds. Nous, quand on pense aux pieds, on pense évidemment juste les pieds. Mais, en fait, c'est une mauvaise traduction, c'est la jambe, et y compris la cuisse. Donc, voilà, bref, c'est difficile de savoir exactement ce qui s'est passé cette nuit ou pas. En tout cas, ça a marché. Le chapitre 4, du coup, c'est le chapitre où l'affaire va se conclure. On va essayer de convaincre celui qui arrive en priorité. Allez-y, bienvenue, installez-vous, nous sommes dans le livre de Ruth, chapitre 4. On va essayer de convaincre celui qui a la priorité, le premier rédempteur, de se désintéresser. Alors, a priori, c'est pas très difficile, puisque d'une part, elle est étrangère, et puis on va essayer d'embrouiller ce monsieur. Verset 5, dans le chapitre 4, verset 5, Boaz dit « Le jour où tu achèteras le champ à Noémie, tu l'achèteras au nom de Ruth la Moabite, femme du défunt, pour maintenir le nom du défunt sur son patrimoine. » Le rédempteur répondit, « Je ne peux pas assurer la rédemption de peur d'anéantir mon propre patrimoine. Assure-toi même la rédemption qui m'incombe, car je ne peux pas le faire. » Donc, il essaie de l'embrouiller en disant, « Oui, mais alors tu comprends, tu es le proche parent de Noémie. » Évidemment, hein, pas de Ruth, puisque Ruth, c'est de façon très... Ruth, c'est la belle-fille, donc c'est la fille d'un des fils du mari de Noémie. Donc, en l'occurrence, c'est plutôt par rapport à Noémie... c'est plutôt par rapport à Noémie qu'il faut assurer le rachat. Et puisque c'était l'épouse d'Élimélec, donc cet Israélite qui avait une propriété. Hein, au verset 3, Noémie, qui est revenue du pays de Moab, a mis en vente la parcelle de terre qui appartient à Élimélec, notre frère. Donc, en fait, il ne lui parle pas de Ruth dans un premier temps. Il commence par lui parler de Noémie, et puis il a raison d'ailleurs, puisque c'est Noémie d'abord qui est l'épouse de cet Israélite, avec lequel elle a eu des enfants. Donc les enfants, déjà, ils sont... Et puis les enfants, eux, ont épousé des Moabites. Donc Noémie est israélite, donc il n'y a pas de problème. Le proche parent, évidemment, c'est l'épouse de Noémie. Donc il est question des terrains de Noémie, de racheter Noémie et son terrain. Mais du coup, Boaz en profite pour mettre Ruth dans l'affaire en disant « Ah oui, mais alors c'est un peu plus compliqué que ça, puisqu'elle a une belle-fille qui est là aussi, donc il faut aussi s'occuper d'elle. Donc si tu veux la parcelle, il faut la mettre au nom de Ruth, etc. etc. » Donc ça fait peur. Ça fait peur à ce proche parent. C'est un peu quand on met tout un tas de clauses dans des contrats ou des actes, etc. Ça fait peur aux gens. Moi, je me souviens la première fois que j'ai signé, ça m'a vraiment fait peur. Enfin, bref, donc du coup, finalement, le dire non, il se débine, ce qui permet à Boaz d'avoir le champ libre et ça lui permet d'épouser Ruth. Et donc il dit, verset 9, « Vous êtes témoin aujourd'hui que j'ai acheté à Noémie tout ce qui appartenait à Élimélec, Et puis du coup, à la même occasion, aux deux fils d'Élimélec, c'est-à-dire Kilion et Malon, et donc également la belle-fille, donc l'épouse d'un de ses fils, j'ai également acheté pour femme Ruth la Moabite. Oui, aujourd'hui c'est un peu choquant de dire qu'on achète une femme, mais bon, c'est comme ça. Donc pour maintenir le nom du défunt sur son patrimoine, etc., etc. Verset 11, tout le peuple qui était à la porte de la ville et les anciens dirent, nous en sommes témoins. Bon, parfait. Et du coup, il peut l'épouser. Verset 13, Boaz prit Ruth, elle devint sa femme, il alla avec elle. Yahvé donna à Ruth de concevoir, elle mit au monde un fils. Donc ils ont un fils. Ce fils, verset 17, elles l'appelèrent du nom d'Obed, c'est le père de Jessé, père de David. Et c'est là que se conclut le livre de Ruth. Ruth s'avère être l'arrière-grand-mère du roi David. Et puis du coup, on a la généalogie qui suit, depuis Pérès jusqu'à David, en passant par Boaz, Obed, Jessé et David. Donc, vous voyez l'enjeu du livre de Ruth, puisqu'à la fin, elle est l'ancêtre du roi David. Donc, cette thématique que je vous avais expliquée au départ, la thématique du prosélytisme, c'est-à-dire de dire que fait-on des étrangers ? On a une Moabite, elle n'est pas israélite. Son dieu, c'est Kamosh. Est-ce qu'elle peut intégrer le peuple d'Israël, est-ce qu'elle peut changer de Dieu, est-ce que Yahvé peut être son Dieu, est-ce que Yahvé peut la bénir, est-ce qu'elle peut épouser un Israélite? C'est ça la question. Alors il y a l'aspect ethnique d'une part, mais il y a l'aspect religieux d'autre part. Et la réponse du livre de Ruth, c'est oui, bien sûr, c'est possible. Si l'attitude de Ruth est en conformité avec ce qu'on attend, disons, les valeurs du judaïsme. Si c'est en accord avec les valeurs du judaïsme, il n'y a pas de problème. Donc, au début, on met l'accent sur la loyauté de Ruth, sa loyauté à sa belle-mère Noémie, mais également sa volonté de devenir véritablement une Israélite. Un des versets clés du livre de Ruth, on l'a dès le premier chapitre au verset 16, où elle dit, la deuxième partie du verset 16, « Bon, où tu iras, j'irai, là où tu passeras la nuit, je passerai la nuit, mais surtout, écoutez bien, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. » Donc, voyez cette petite phrase, « Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu », c'est on pourrait presque dire une formule presque rituelle, presque liturgique, une formule de conversion. On a là presque un modèle pour les non-judéens qui voudraient adhérer au judaïsme. Est-ce que c'est possible pour un non-judéen d'adhérer au judaïsme ? Oui, c'est possible. Il lui suffit de prononcer cette parole, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Et c'est possible, à condition bien sûr de le croire, de le mettre en pratique, d'être fidèle. Et ça permet même à cette fameuse Ruth, qui est pourtant une étrangère, une Moabite, d'être l'ancêtre du grand roi David. Donc ça, si ce n'est pas un argument, alors je ne sais pas ce qu'il vous faut. Alors il y a un autre personnage dont on a déjà parlé, qui lui aussi se retrouve intégré au peuple d'Israël, une étrangère intégrée au peuple d'Israël, et qui est même dans la généalogie également du roi David. Est-ce que vous savez de qui il s'agit ? C'est Rahab, la prostituée. Dans le livre de Josué, Rahab habite Jéricho, mais elle a de la même manière, elle accueille les espions, elle reconnaît la suprématie de Yahvé par rapport à leur dieu à eux, et elle leur demande la possibilité d'être acceptée. Ils répondent positivement. Et donc, Rahab, la prostituée, va se trouver intégrée au peuple. Et on nous dit, elle habite encore parmi nous, et de génération en génération. Et on avait même vu, ça c'était au chapitre 6 de Josué, et j'avais même insisté sur l'antithèse qui est arrivée au chapitre suivant, chapitre 7, c'était Akan. J'avais dit, Rahab est une femme, Akan est un homme, Rahab est une étrangère, cananéenne. Akan est un Israélite, mais Rahab a un comportement juste et loyal. Akan a un comportement injuste et déloyal, puisqu'il vient se servir du butin, etc., etc. Du coup, Rahab est récompensé, alors que Akan est puni, il est retranché. Rahab est incluse dans le peuple, alors que Akan est retranché du peuple. Donc on avait déjà un exemple comme ça. Et pareil, cette apparition dans la généalogie, évidemment, est révélatrice. Alors, Ruth se retrouve dans la généalogie de David, et par la même occasion, ce même message va se retrouver dans le Nouveau Testament, puisque dans la généalogie du Christ, de Jésus, dans les premiers versets de l'Évangile selon Matthieu, on va retrouver le personnage de Ruth. Il va être mentionné, si vous regardez juste rapidement Matthieu chapitre 1er, versets 1 à 5. On va regarder le verset 5 notamment. Vous voyez, on nous dit « Salmon avec Rahab engendra Boaz, Boaz avec Ruth engendra Yobed, Yobed engendra Jessé, Jessé engendra David. » C'est intéressant de voir que tant Ruth que Rahab sont mentionnés dans la généalogie de Jésus. Alors qu'en principe, on ne met que les hommes, et parfois on indique l'épouse. Par exemple, verset 3, Judas avec Tamar. Mais en général, on ne dit pas avec quelle épouse. Le fait qu'on mentionne une femme, c'est pas anodin. On mentionne l'épouse parce qu'on veut signifier que cette femme est aussi parmi les ancêtres de Jésus. Donc parmi les ancêtres de Jésus, vous avez Rahab et vous avez Ruth. Donc ça, c'est vraiment un élément majeur d'un point de vue théologique sur l'ouverture aux non-judéens. Et cette question, elle va intéresser également les premiers disciples de Jésus, qui seront tous judéens. Ils composeront un des mouvements au sein du judaïsme. Ce sera le nazoréisme. Hein, il y a les sadducéens, les pharisiens, etc. Et les nazoréens. Et il va falloir attendre un certain temps avant que, justement, d'autres personnes s'intéressent à ce Jésus et souhaitent devenir disciples de Jésus, alors même qu'ils ne sont pas judéens. Et la question se posera de dire, que fait-on des non-judéens qui souhaitent devenir disciples de Jésus, autrement dit, adhérer à une des formes du judaïsme de l'époque? Dans le judaïsme, une des formes, c'est le nazoréisme. Ils souhaitent adhérer au nazoréisme, donc au judaïsme. Donc, est-ce qu'il faut qu'ils deviennent judéens? Et si oui, qu'est-ce qu'ils doivent faire? En particulier, est-ce qu'il faut qu'ils se fassent circoncire, qu'ils observent les préceptes de la Torah, etc., etc. Et cette discussion qui prend place au sein du nazoréisme dans les décennies qui suivent la venue de Jésus, on la trouve également dans le judaïsme, avec la question du personnage de Ruth. Et la réponse, elle est là. Et donc, le personnage de Ruth pourra être invoqué comme un exemple de prosélytisme. Sauf que, évidemment, dans la question du personnage de Ruth, la question de la circoncision ne va pas se poser. Elle devient une judéenne. Il ne s'agit pas encore qu'elle reste moabite, disons, puisqu'elle dit « ton peuple sera mon peuple ». Donc on a la possibilité que des non-judéens deviennent judéens. Ça, c'est fait. Avec Ruth, c'est possible. Mais l'idée qu'ils puissent adhérer au nazoréisme sans devenir judéen, ça sous-entendrait que le nazoréisme ne soit plus une des branches du judaïsme. Et c'est ce qui va se passer avec la naissance du christianisme. C'est-à-dire que les croyants de langue grecque et de culture grecque vont rejeter le terme de nazoréisme. Ils ne vont pas s'appeler des nazoréens, ils vont s'appeler des chrétiens. Et le livre des Actes nous le mentionne, à Antioche notamment. Donc on est en Syrie, on est très au nord, à des centaines de kilomètres au nord. On parle grec, on est de culture grecque. On ne comprend pas trop ce qui se passe avec ce mouvement des pharisiens et le rabbinisme qui va naître à la fin du 1er siècle de notre ère. On dit finalement, nous, on va se défaire du judaïsme. Et du coup, on va faire de ce mouvement lié au personnage de Jésus un mouvement autonome, indépendant du judaïsme. Du coup, la question se posera. Mais disons que dans les premières décennies, la naissance du christianisme, évidemment, la question des non-judéens qui peuvent ou non adhérer à la foi dans le Christ, dans le Messie, elle va se poser. Et nul doute que la mention du personnage de Ruth dans la généalogie de Jésus ait un lien avec cette réflexion. Voilà pour le livre de Ruth, donc le premier des Miguelotes. Alors, je continue avec le Cantique des Cantiques, deuxième livre des Miguelotes. Parfois, il apparaît en tête des Mégillotes, puisque je disais, il est lu à Pâques, alors que Ruth est lu à la Pentecôte. Donc, au niveau du calendrier liturgique, on va avoir tendance à dire le Cantique des Cantiques avant le livre de Ruth. Mais dans les Bibles hébraïques tardives, l'ordre est bien celui que je vous ai dit tout à l'heure. On commence par Ruth, ce qui permet de terminer par Esther, donc d'avoir cette réponse entre Ruth et Esther en première et cinquième position. Alors, le livre de Ruth, dans les Bibles grecques médiévales, ne se trouve pas rassemblé avec le Cantique des Cantiques, etc. Dans les Bibles grecques, le livre de Ruth va être inséré après le livre des Juges et avant le livre de Samuel. Ce qui est le cas dans certaines éditions françaises de la Bible, par exemple la version seconde, y compris la Nouvelle Bible seconde, vient situer le livre de Ruth après le livre des Juges et avant le livre de Samuel. Pourquoi ? Parce qu'au niveau il s'agit de la trame narrative. Le livre de Ruth se place à l'époque des Juges, et donc avant le roi David. Or, on sait que le livre de Samuel vise à raconter la naissance de la royauté et donc l'arrivée du roi David. Donc on est bien, d'un point de vue chronologique, à l'époque des Juges, juste avant l'arrivée de David. Les derniers versets parlent de David, donc c'est logique de mettre le livre de Ruth entre le livre des Juges et le livre de Samuel. Et ça, c'est dans des Bibles grecques, chrétiennes, médiévales. Dans des Bibles hébraïques, je vous disais, on a bien, c'est le livre de Ruth fait bien partie des Mégillotes. Alors, le deuxième livre des Mégillotes, c'est le Cantique des Cantiques. Le Cantique des Cantiques, on change de genre littéraire, on passe du style narratif, de la narration, à un genre poétique. Ce livre s'appelle le chant des chants, littéralement. C'est une forme de superlatif en hébreu, c'est-à-dire que parmi tous les chants, si vous deviez en choisir un parmi tous les chants, c'est celui-là qu'on choisirait. Autrement dit, c'est le meilleur, c'est comme ça qu'on exprime le superlatif en hébreu. C'est une histoire d'amour. C'est un poème d'amour qui est mis en scène. Alors, comme dans toutes les pièces de théâtre, dans la plupart des pièces de théâtre, il y a plusieurs scènes, il y a plusieurs lieux, plusieurs cadres. On va notamment avoir une opposition entre un cadre urbain et un cadre rural. Tantôt, on sera dans le palais, en ville, dans le palais du roi. Tantôt, on sera dans les champs, dans la campagne. Alors, le Cantique des Cantiques raconte l'histoire d'amour entre une femme et son amant. Et c'est une sorte de tragédie, puisque c'est un amour impossible, parce que cette femme fait partie du harem du roi. Et du coup, elle va être mariée au roi. Alors que le roi a déjà pas mal de femmes, et elle en aime un autre. Mais celui qu'elle aime, évidemment, c'est pas un roi, c'est un simple paysan qui n'a pas les moyens de l'épouser. Alors, le roi en question, ici, on va dire que c'est Salomon. On va trouver quelques mentions de Salomon, chapitre 3, versets 7, 9, 11, il s'agit de Salomon. On va retrouver la mention de Salomon à la fin, tout à la fin, au dernier chapitre, chapitre 8, versets 11 et verset 12. Donc ça, le roi en question, pour planter le décor, on va dire que c'est Salomon, puisqu'on est dans les fastes du palais royal, etc. Or, dans la tradition juive, Salomon, c'est celui qui a un grand palais royal, etc. Et c'est celui qui a plein de femmes aussi, hein, puisqu'on nous dit qu'il avait des centaines de femmes, et des centaines de concubines, etc., etc. Donc elle est une des innombrables femmes de Salomon. Le bien-aimé est anonyme, semble-t-il, sauf peut-être un autre nom qui apparaît à la fin du chapitre 6, verset 12, Aminadab. Ou Aminadib, tel que c'est vocalisé dans le texte massorétique. Alors c'est intéressant parce que ce nom propre, alors la syntaxe est un petit peu difficile, la vocalisation est difficile, etc. etc. S'il s'agit bien d'un nom propre, c'est un nom propre qui est attesté en Transjordanie, donc du côté du royaume d'Ammon, chez les Ammonites. Vous connaissez aujourd'hui Amman, c'est encore la capitale de la Jordanie actuelle, donc c'est autour d'Amman et de sa région. Il y a des rois donc, dont le palais était à Amman, donc des rois ammonites, au 7e siècle avant notre ère, qui portent ce nom-là. Alors, est-ce que c'est le nom de son bien-aimé ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre ? On n'en sait trop rien. Et donc, ça va se présenter, il va y avoir plusieurs scènes. On va alterner entre, donc, au niveau géographique, entre le palais et puis les retrouvailles qui vont se faire à chaque fois au niveau du palais, puis dans les champs, avant de revenir au palais. Puis de nouveau, le bien-aimé qui revient au palais, elle sort, ils vont dans les champs, et puis elle revient au palais. Au chapitre 1er, on est dans le contexte palatial. Elle est dans le harem, elle est entourée il y a les filles de Jérusalem, les femmes, etc., etc. Et alors qu'elle est dans le palais, elle pense à son bien-aimé, et donc il y a une sorte de dialogue fictif, des paroles d'amour qui sont échangées. Et donc elle met en opposition d'une part le fait que le roi, d'accord, elle est dans l'entourage du roi, mais elle pense à son bien-aimé. Verset 12, « Tandis que le roi était avec son entourage, mon nard a exhalé sa senteur, la senteur du bien-aimé, mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe, il repose entre mes seins, etc. etc. » Donc il y a une alternance à chaque fois entre eux, un dialogue entre lui et elle, etc. Elle pense à lui et elle aimerait le retrouver. Alors au niveau structurel, c'est difficile à établir parce que c'est toujours une sorte de dialogue. Ce qu'on voit, c'est qu'au chapitre 2, verset 7, on a un refrain. « Je vous adjure, fille de Jérusalem, par les gazelles, par les biches de la campagne, n'éveillez pas, ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne le désire. » Et ça va revenir régulièrement, « Ne réveillez pas l'amour. » Donc ce petit refrain au chapitre 2, verset 7, permet la transition avec la venue réelle du bien-aimé. Donc le bien-aimé arrive, et on nous dit au verset 9, chapitre 2, verset 9, « Il se tient derrière notre mur, il regarde par la fenêtre, il épie par le treillis. » Donc le bien-aimé s'approche, il s'approche de la ville, s'approche du palais, il essaye de voir sa bien-aimée, et il y a encore à chaque fois des dialogues entre elle et lui. Et puis, finalement, elle souhaiterait pouvoir le retrouver, elle ne peut pas. Elle est enfermée, évidemment, dans le palais. Chapitre 3, verset 1er, « Sur mon lit, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Je vais me lever, je ferai le tour de la ville, dans les rues, sur les plages, je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Les gardes qui font le tour de la ville m'ont trouvé. Avez-vous vu celui que mon cœur aime ? À peine les avais-je dépassés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi, je ne lâcherai plus jusqu'à ce que je l'ai introduit dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. » Donc elle veut. Alors est-ce qu'elle le fait? Est-ce qu'elle en rêve? Puisqu'elle dit je suis couchée sur mon lit. Donc est-ce que c'est un rêve qu'elle fait dans son lit où elle rêve qu'elle arrive à sortir, à parcourir les rues de la ville, demander aux gardes aux portes de la ville est-ce que vous avez vu mon bien-aimé sortir et puis le ramener dans sa chambre pour passer la nuit avec lui? Est-ce qu'elle le rêve? Est-ce que c'est vrai? Je n'en sais rien. Et puis de nouveau. À la fin, au verset 5, vous retrouvez le refrain n'éveillez pas, ne réveillez pas l'amour avant qu'il le désire. Donc, est-ce qu'elle est en train de rêver justement le rêve de cet amour impossible? Ensuite, on se retrouve de nouveau dans le palais, et cette fois-ci, on est dans la scène suivante, c'est la scène du mariage. Elle va être épousée par Salomon. Verset 7, c'est la litière de Salomon, autour d'elle 60 vaillants hommes parmi les plus vaillants d'Israël, etc. etc. Donc on voit la scène du mariage, verset 9, le roi Salomon s'est fait un palanquin en bois du Liban. Alors le mot traduit par palanquin, c'est un mot grec, donc ça c'est intéressant, ça montre quand même que, en tout cas, certaines rédactions du livre du Cantique des Cantiques sont tardives, parce que si on a des mots grecs, ça peut difficilement être avant, peut-être le 4e siècle avant notre ère, quelque chose comme ça. Bon, le grec existait avant, mais les contacts étaient moins nombreux avant le 4e, 3e siècle avant notre ère. Et puis du coup, alors il y a la couronne. Hein. « Sortez, fille de Salomon, verset 11, regardez le roi Salomon avec la couronne dont sa mère l'a couronnée, le jour de ses noces, le jour de la joie de son cœur, etc. etc. » Et donc de nouveau, alors il va y avoir des descriptions physiques, de beauté, d'amour, etc. etc. Je passe les détails pour l'instant, on y reviendra tout à l'heure. Et donc ça continue. Tout le chapitre 4, disons grosso modo, et la description du mariage. Et puis, de nouveau, on va se retrouver, la scène suivante, elle dort, elle est de nouveau dans sa chambre, et là, elle pense à son bien-aimé. Donc, chapitre 5, verset 2. J'étais endormi, mon cœur veillait, c'est mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. Donc, apparemment, cette fois-ci, il n'est pas simplement à regarder par le treillis. Il a réussi à se glisser jusque dans les couloirs du palais. Il toque à sa porte. J'ai quitté ma tunique. Comment la remettrai-je? Autrement dit, elle s'est déjà déshabillée, elle est déjà au lit, donc elle entend que frappe à sa porte, vite, vite. Il faut qu'elle se rhabille. Mon bien-aimé, verset 4, a passé la main par l'ouverture. Mes entrailles ont frémi à cause de lui. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé. Donc elle se dépêche, elle ouvre la porte, etc. etc. J'ai ouvert à mon bien-aimé verset 6, mais mon bien-aimé avait tourné le dos, il était passé. Autrement dit, trop tard. Il a dû toquer à sa porte, seulement les gardes font la ronde. Le temps qu'elle ouvre la porte, il est déjà reparti. Verset 7, les gardes qui font le tour de la ville m'ont trouvé. Ils m'ont frappé, ils m'ont blessé, ils m'ont enlevé ma mantille. Les gardes, autrement dit, elle essaye de fuir pour le retrouver, mais forcément, les gardes la rattrapent et lui disent, où est-ce que tu vas comme ça ? Retourne. Alors, ils finissent quand même par se retrouver. En tout cas, je ne sais pas si c'est en vrai ou pareil dans ses rêves. Est-ce qu'elle se recouche et est-ce qu'elle repense à son bien-aimé, etc. Mais il y a encore donc des descriptions de beauté, d'échanges. Chapitre 6, verset 2. « Mon bien-aimé est descendu à son jardin au partir des sens odoriférantes pour paître. » Donc, cette fois-ci, on est vraiment dans ce contexte de jardin. Donc, des retrouvailles dans le jardin avec l'exaltation de l'amour. C'est là qu'on a la mention, donc verset 11 à nouveau du jardin, chapitre 6, et puis verset 12, Aminadab. Au chapitre 7 et 8, alors j'arrive au chapitre 8, là à la fin, on arrive de nouveau à l'évocation de cet amour impossible. « Ah, si tu étais mon frère, nourri au sein de ma mère, je te trouverais dehors, je t'embrasserais et on ne me mépriserait pas. » Autrement dit, s'ils étaient frères et sœurs, personne, ils auraient le droit de passer du temps ensemble. « Je te conduirais, je t'introduirais dans la maison de ma mère, tu m'instruirais, etc. Voilà. » Mais on ne peut pas, malheureusement. Vous avez le refrain qui revient en verset 4, « N'éveillez pas, ne réveillez pas l'amour avant qu'il le désire. » Et donc, finalement, il y a cet amour impossible qui est évoqué. Alors, les versets 5, 6, 7 nous parlent de cet amour impossible, cet amour fort comme la mort. Verset 6, place-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort, la passion jalouse est dure comme le séjour des morts. Donc peut-être qu'on se retrouvera dans la mort, hein, c'est Roméo et Juliette si vous voulez. Verset 7, de grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, les fleuves ne sauraient l'emporter, quand un homme donnerait tous les biens de sa maison contre l'amour, il n'obtiendrait que le mépris. Un peu plus loin, verset 11, on a cette opposition entre Salomon et le bien-aimé. Verset 11, « Salomon avait une vigne à Baal-Hamon, il remit la vigne à des gardiens, chacun apportait pour son fruit 1000 pièces d'argent. Ma vigne à moi, verset 12, je l'ai devant moi. À toi, Salomon, les 1000 pièces, à 200 et 200 à ceux qui en gardent le fruit. Toi qui habites... » Donc, il y a Salomon qui est riche, qui a cette... Voilà, il a tout ce qu'il veut, toutes les femmes qu'il veut, y compris elle. Le bien-aimé, lui, il aurait bien aimé l'avoir, cette vigne, mais bon, voilà, il ne peut pas. Et ça se termine, c'est terrible. La fin, verset 14, « Prends la fuite, mon bien-aimé. » C'est terrible, enfin, voilà. Voilà, c'est tragique. Donc ça, c'est c'est l'histoire du Cantique des Cantiques. Alors, c'est une histoire très belle, une histoire tragique, une histoire qui, évidemment, vante l'amour, un amour physique, un amour érotique. Il y a tout un tas de versets, évidemment, qui ont des allusions à caractère sexuel. Je vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais chapitre 2, verset 4, il m'a amené à la maison du vin, donc autrement dit, dans la cave, hein, on va dans la cave, faire ce que vous imaginez. La bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. La bannière, c'est Degel en hébreu, c'est l'étendard, c'est le pieu, donc, bon, enfin voilà. Ouais. De nouveau, bon, chapitre 5, verset 1er, « J'entre dans mon jardin. » Donc lui, il entre dans son jardin, et son jardin, c'est elle. « Je recueille ma myrrhe, je mange, etc. » Donc il entre en elle. Chapitre 5, verset 4, « Mon bien-aimé passe la main par l'ouverture, mes entrailles ont frémi. » Donc il y a des allusions sexuelles, c'est presque explicite à ce niveau-là. Chapitre 7, verset 3, « Ton bassin est une coupe arrondie. » ton ventre est un monceau de froment, tes deux seins sont comme deux petits les jumeaux d'une gazelle. Donc on décrit son pubis, on décrit son bassin, son ventre, ses seins. Donc verset 8, ta stature ressemble au palmier, tes seins à des grappes. J'ai dit, je vais monter au palmier, donc il va monter sur elle, j'en saisirai les fruits, donc les seins, etc. Donc il y a vraiment des descriptions imagées, très belles, mais d'un rapport sexuel de façon quand même assez explicite. Alors ça, c'est problématique, d'une part, parce que là, on vante un amour impossible et même interdit. Elle est mariée, donc elle fait l'amour, en tout cas, elle imagine l'amour avec quelqu'un d'autre alors qu'elle est mariée. Bon, donc c'est de l'adultère. Premier problème. Puis en plus de ça, dans la Bible hébraïque, il n'y a pas beaucoup de textes qui vantent un amour érotique, un amour physique comme ça. Donc ça a posé des problèmes quant à l'intégration de ce livre dans la Bible. À un moment donné, les gens disent, mais qu'est-ce que ça fait dans la Bible? Est-ce qu'il faut que ce soit dans la Bible? Tant chez les rabbins que chez les pères de l'Église, donc dans les premiers siècles de notre ère, il y a des grandes discussions. C'est les premiers siècles de notre ère, c'est l'époque où on discute des livres qu'on va mettre dans la Bible. Et il y a des gens qui sont contre, en disant ça n'a rien à faire dans la Bible. Et d'autres ont dit si. En plus, Dieu n'apparaît pas. Hein. Vous lisez le Cantique des Cantiques, Dieu n'apparaît pas du tout. Je veux dire, un livre dans la Bible où Dieu n'apparaît pas, c'est quand même problématique. En fait, on dit si c'est une métaphore. Alors du coup, chez les rabbins, on explique que c'est une métaphore de l'amour entre Dieu et Israël, puisque vous savez que les prophètes présentent souvent le rapport entre Dieu et son peuple comme étant un rapport de marital. Hein, Israël est l'épouse de Dieu, d'ailleurs une épouse infidèle, c'est pour ça qu'on la condamne, etc. On a fait les cours là-dessus, on a déjà parcouru tous les prophètes, donc vous connaissez cette présentation. Et cette idée d'un amour croissant, puisqu'au début on dit qu'elle est noire, donc verset 5, je suis noire mais je suis belle, fille de Jérusalem, etc. Donc la noirceur c'est le péché, etc. Donc, voilà, c'est un amour croissant, c'est ce que les rabbins expliquent. Chez les pères de l'Église, c'est pareil, sauf que du coup, c'est pas Israël, c'est l'Église, c'est l'amour entre le Christ et l'Église, ou même, plus précisément, l'amour entre le Christ et la Vierge, et Marie. Et il y a eu des traductions du Cantique des Cantiques, traductions françaises du Cantique des Cantiques, qui vont dans cette direction-là, quoi. Donc c'est vraiment très impressionnant de voir c'est la façon dont c'est traduit pour spécifiquement représenter l'amour entre le Christ et Marie. Donc c'est à ce titre que le Cantique des Cantiques a eu sa place dans la Bible. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il est très bien comme il est et qu'il n'y a pas besoin de plaquer une interprétation allégorique qui est de toute évidence pas du tout l'intention de l'auteur. L'auteur, il ne cherche pas du tout à avoir une interprétation allégorique. Et je pense que c'est bien que dans la Bible, d'abord, il y ait des textes qui vantent l'amour physique, d'une part, parce que sinon, on pourrait en douter, on pourrait douter que ça fasse partie, disons, de la vie du croyant. Et puis, par ailleurs aussi, un texte qui relativise, y compris les conventions sociales sur l'amour restreint dans le cadre du mariage. On dit, oui, mais l'amour, c'est l'amour, quoi. Voilà. Donc, je m'arrête là pour le Cantique des Cantiques. Il faut qu'on avance. Je vous ai dit qu'on ne ferait pas les 5 mégillotes aujourd'hui, on va peut-être en faire 3 et puis on s'arrêtera là. On termine avec l'Ecclésiaste dans les dernières minutes qui nous restent. Le Kohelet, hein, le terme hébreu, c'est Kohelet. C'est un terme un peu bizarre, c'est un participe actif féminin, verbe kal qui veut dire rassembler, donc c'est la rassembleuse, littéralement. Alors c'est bizarre parce que c'est du féminin, alors qu'en fait, dans le reste du récit, c'est du masculin, c'est un homme qui parle. Donc, le titre lui-même est énigmatique. Alors, on s'est posé la question de savoir si c'était peut-être pas le nom d'une personne, mais plutôt le rassemblement ou quelque chose comme ça. Enfin, mais en même temps, voilà, c'est les paroles. Donc, ça pourrait être les paroles de rassemblement et pas du Kohelet, c'est-à-dire d'une personne qu'on appellerait comme ça. Donc, petite énigme par rapport à ça. Alors là, on change encore de genre littéraire. Hein. Ruth, c'était narratif. Cantique des Cantiques, c'est poétique. Kohelet, c'est littérature sapientielle, livre de sagesse. Alors, la sagesse, on en a déjà parlé, on a vu Job, on a vu le livre des Proverbes. Eh bien là, vous allez avoir l'antithèse du livre des Proverbes. C'est-à-dire que le Kohelet est contre la sagesse du type de celle qu'on a vue dans les Proverbes. Je vous disais, le livre des Proverbes, c'est la sagesse, c'est le bon sens. Si tu parles trop, ça va te jouer des tours. Il vaut mieux être sympa avec les gens si tu veux qu'ils soient sympas avec toi, etc. Enfin voilà, c'est la sagesse de la vie de tous les jours, etc. Et en fait, pour le Kohelet, c'est faux. Ça ne marche pas. Il le dit d'emblée, dès le premier chapitre, verset 18, « Avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de contrariétés. » Voilà. « Plus on a de connaissances, plus on a de tourments. » Donc pour lui, c'est clair, ça ne sert à rien d'avoir beaucoup de sagesse, ça ne sert à rien d'accumuler la connaissance. Donc tout ce que le livre des Proverbes dit... Vous pouvez mettre ça à la poubelle. Alors, c'est un peu choquant, évidemment. Et en fait, c'est pas le seul cas. Hein. Regardez un peu plus loin, chapitre 7, il en revient. Hein. Chapitre 7, il a des petites... il donne comme ça des petites maximes, comme celles qu'on a dans les proverbes. « Mieux vaut ceci que cela, ceci, etc. » Voilà, bref. Verset 5, « Mieux vaut écouter le reproche d'un sage qu'être homme à écouter la chanson des gens stupides, etc. » Enfin, bref. Sauf qu'ensuite, il dit... Verset 15, donc là, on a l'impression que c'est des citations. Hein. Il cite les proverbes qu'il a appris comme nous. Et puis il dit, verset 15, « J'ai vu tout cela pendant mes jours futiles. » Mais voilà ce qu'il a observé. « Il y a tel juste qui disparaît par sa justice et tel méchant qui prolonge son existence par la méchanceté. » Donc autrement dit, quand on dit si tu es juste, si tu fais bien, tout ira bien pour toi, si tu es méchant, ça ira pas pour toi, il dit non, moi j'ai vu le contraire. Verset 16, ne sois pas juste à l'excès. Ne te montre pas trop sage. Donc il ne faut pas être trop sage. Le Qohélète nous dit, ne soyez pas trop sage. Alors après le Cantique des Cantiques qui nous dit, il n'y a pas de problème, on peut aimer un autre que son mari, voilà le Qohélète qui nous dit, il n'y a pas de problème, on peut ne pas aimer la sagesse, etc. Verset 19, là, en même temps il se contredit puisqu'il dit, la sagesse rend le sage plus fort, etc. Donc en fait, le Qohélète, si vous prenez les différents thèmes du Qohélète, il va se contredire lui-même. Là je parle de la sagesse. Alors je vous dis, il y a chapitre 1, verset 18, chapitre 7, verset 16, chapitre 8, verset 17, de nouveau la deuxième partie du verset 17, même si le sage prétend connaître, il ne peut pas trouver. Voilà. Bon. Également, chapitre 12, verset 12, il dit, la fin du verset 12, « Beaucoup d'études est une fatigue pour la chair ». Voilà. Donc ça ne sert à rien d'étudier, d'ailleurs je ne sais même pas pourquoi on fait cours, parce que voilà, beaucoup d'études et de fatigue pour la chair. Donc il y a un discours négatif par rapport à la sagesse. En même temps, il y a d'autres versets qui disent tout le contraire. Chapitre 2, verset 13, « J'ai vu ceci, l'avantage de la sagesse l'emporte sur celui de la folie ». Chapitre 7, verset 11, « La sagesse vaut un patrimoine, elle est un avantage pour ceux qui voient le soleil ». Donc, on a l'impression qu'il se contredit lui-même au niveau de la sagesse. Et à vrai dire, c'est vrai pour tous les autres thèmes qui seront abordés. Par exemple, la joie. Si vous lisez chapitre 5, verset 18, il est positif par rapport à la joie. Il dit « Pour tout être humain à qui Dieu a donné richesse et bien et à qui il a accordé le pouvoir de s'en nourrir, d'en prendre sa part et de se réjouir de son travail, c'est là un don de Dieu. Voilà. » Si on peut se réjouir, c'est un don de Dieu. Donc c'est positif. D'un autre côté, chapitre 7, verset 3, il dit « Mieux vaut la contrariété que le rire ». Et il se contredit. Alors, il parle beaucoup des biens et des richesses. Alors, il dit des choses positives. Pareil, chapitre 3, verset 13. « Manger, boire et voir le bonheur dans tout son travail est un don de Dieu ». Bon, c'est formidable. Chapitre 5, verset 17 et 18, on les a lus. Chapitre 2, verset 24. « Il n'y a de bon pour l'être humain que de manger, de boire et de voir le bonheur dans son travail ». Bon, voilà, c'est une bonne chose. Donc, a priori, c'est bien d'accumuler des biens, des richesses, etc. Mais, d'un autre côté, il va dire le contraire. Chapitre 2, verset 18. « J'ai détesté tout le travail que j'ai fait sous le soleil et que je dois laisser à celui qui me succédera. » Chapitre 5, verset 9, également. « Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Celui qui aime l'abondance n'a pas de revenus. » C'est là encore une futilité. Donc, il va également dire le contraire. Dans le travail également, il va être positif par rapport au travail, chapitre 11, verset 6, mais il va être aussi négatif, chapitre 4, verset 6. Il va parler des femmes, il va dire des choses positives par rapport aux femmes, chapitre 9, verset 9. Il va dire « jouis de la vie avec la femme que tu aimes », par exemple. Chapitre 4, verset 11. « Si deux couchent ensemble, ils auront chaud ». Chapitre 4, verset 8. Il parle d'un homme qui est seul et du coup qui est malheureux. Donc pour lui, avoir une femme, c'est bien. D'un autre côté, chapitre 7, verset 26, il dit « J'ai trouvé plus amer que la mort, deux points, la femme. » C'est un peu raide, hein ?« Qui est un piège, dont le cœur est un filet, dont les mains sont des liens. » Voilà, donc la femme est un piège, un filet, des liens. Donc, on se dit, c'est terrible. Quel que soit le thème qui est abordé dans le Qohélète, vous allez trouver une chose et son contraire. Et c'est là le véritable paradoxe du Qohélète. Alors vous allez dire, mais finalement, quel est le message du Qohélète si finalement il dit tout et son contraire? Il n'a rien à dire, Qohélète? Si, bien sûr, il a quelque chose à dire. Qu'est-ce qu'il essaie de nous dire? Le Qohélète essaie de comparer une approche théorique absolue du type des proverbes en disant « ça c'est bien, ça c'est mal », etc., où il y a des absolus. Si tu fais ça, voilà comment ça va se passer. Et il vient contraster ça avec l'expérience personnelle. Il dit, moi je suis désolé, mais quoi que vous me disiez, dans l'expérience, je peux observer le contraire. Donc il vient contraster une approche absolue avec une approche relative. Une approche absolue, il y a les sages, les anciens qui disent quelque chose de génération en génération, et comme dans les proverbes, mon fils écoute l'instruction de ton père. Il dit non, moi je. Et il parle à la première personne. Voilà ce que moi j'ai expérimenté, voilà ce que moi j'ai vécu. Donc il veut faire l'expérience. Il y a un côté empirique. Donc, d'un point de vue épistémologique, là, on est vraiment On est vraiment dans de l'épistémologie. Comment on fait pour savoir quelque chose? Est-ce que je sais quelque chose parce que c'est la sagesse qui est transmise des anciens, ou est-ce que je sais quelque chose parce que je vais l'observer moi? Et c'est ça la méthode empirique. Et c'est intéressant parce que ça rejoint l'évolution de la philosophie à l'époque hellénistique là aussi. Donc on est probablement d'époque hellénistique. Donc approche empirique, personnelle. Non pas absolue, mais relative, subjective. Je. Il parle à la première personne. Et du coup, il va avoir une approche sceptique. Le scepticisme, là encore, c'est une approche épistémologique développée à l'époque hellénistique. Il veut faire l'expérience. Et ce dont il fait l'expérience, c'est que finalement, il n'y a pas d'absolu, que tout est relatif. Alors, le message fondamental du Qohelet, ce paradoxe en disant « je peux dire une chose et son contraire parce que les deux sont observables dans la vie », vous le trouvez, c'est peut-être un passage qui sert de clé, c'est le chapitre 3. Le chapitre 3 nous dit « il y a un moment pour tout, un temps pour chaque chose ». Et là, vous allez avoir cette alternance de contradictions. Verset 2, un temps pour mettre au monde, un temps pour mourir. Un temps pour planter, un temps pour arracher. Verset 3, un temps pour tuer, un temps pour guérir. Un temps pour démolir, un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. Verset 4. Donc dans tout ce passage du chapitre 3, il vient finalement synthétiser ce qu'il a observé et sa conclusion. Alors, maintenant je vois que l'heure est achevée. Finalement, qu'est-ce qu'on peut conclure? Le Qohelet dit, moi, ce que j'observe, c'est que on a beau m'inculquer depuis mon enfance des grands principes absolus, ce que j'observe, c'est que c'est pas si simple que ça. C'est que c'est un peu naïf de croire qu'il y a des absolus comme ça, que, en fait, tout est relatif. Tout est relatif en fonction des périodes de la vie. Il y a des moments où on va expérimenter une chose, des moments où on va expérimenter le contraire. Il dit, moi, j'ai tout testé. J'ai testé, hein. Il dit, au chapitre 1er, j'ai testé la sagesse, hein. Chapitre 1er, verset 12 et suivant. Ça marche pas. Chapitre 2, verset 3, j'ai testé, hein, verset 3 et 4, j'ai testé le faste, le plaisir, etc. Ça marche un temps, puis ça marche pas. Donc, sa conclusion, c'est qu'il faut profiter de la vie comme elle vient. Et profiter des différentes périodes de la vie. C'est ce que vous allez voir au chapitre 9. Verset 7, va, mange ton pain avec joie, bois ton vin le cœur content, jouis, verset 9, de la femme, jouis de la vie avec la femme que tu aimes, etc. Parce que verset 10, finalement, il n'y a ni activité, ni raison, ni connaissance, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Donc, la vie, c'est maintenant. Ensuite, il y aura le séjour des morts, et de toute façon, dans le séjour des morts, il n'y a ni connaissance, ni sagesse, etc., etc. Donc, il faut profiter de la vie maintenant. Donc, une forme on rejoint la pensée des épicuriens, une forme d'hédonisme, qui sont encore des pensées qui se développe dans la philosophie grecque dans les derniers siècles avant notre ère. Et de nouveau, vous allez retrouver ça au chapitre 11 et chapitre 12. Chapitre 11, verset 7, « Il est bon pour les yeux de voir le soleil. » Voilà, et le soleil se lève. Déjà, profite de ça. « Si donc quelqu'un vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse de chacune d'elles, qu'il se rappelle que les jours de ténèbres seront nombreux. Hein, » les ténèbres vont venir, elles seront nombreuses. Donc, il faut profiter de la vie maintenant, des jours, tant qu'on en a. Et donc, effectivement, à la fin, chapitre 12, verset 12, beaucoup d'études est une fatigue pour la chair. Donc, il faut qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Voilà ce que nous dit le livre du Qohelet, qui, comme le livre des Cantiques, vient relativiser des enseignements absolus, et donc qui nous invite à prendre la vie comme elle vient et accepter les différentes périodes de la vie. Je vous remercie de votre attention. La semaine prochaine, ce sont les vacances, on ne se voit pas. Dans 2 semaines, on termine les Mégilotes et on continuera.